Après cette mise au point, on va passer définitivement la parole à Bernard Fraisse.
Bien, merci. Donc, d'une certaine manière, la transition va être relativement facile puisque je vais parler de formation. Alors, je préfère avertir tout de suite, mon PowerPoint est beaucoup moins visuel que celui de Jean-Louis. Je suis très jaloux. Donc, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de photo. Je vous demande de m'excuser. Pour préparer cette intervention, j'ai repris un ouvrage que j'avais lu à titre personnel, de goût, qui s'intitule, je ne sais pas si vous le connaissez, La théorie du paysage en France, qui date de 1995, et qui fait appel à plusieurs intervenants. Il y a plusieurs regards, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des spécialistes du paysage. Et j'ai retenu de manière, pour démarrer mon propos de manière un peu provocatrice, vous m'en excuserez, quelques citations, notamment « Paysager le pays, c'est le désagricoliser ». C'est une citation de Yves Lugenbühl, qui est un chargé de recherche au CNRS, et qui parle également de mise en tension, d'effacement des signes de la présence agricole dans l'espace. Et je poursuis par une autre citation. Une société citadinisée qui s'approprie les paysages, sinon dans la réalité, du moins dans les représentations, s'emparer d'un paysage qui a été produit pour l'essentiel par la société paysanne, qui en conserve les teintes, mais recomposé dans une représentation écartant la réalité moderne de l'agriculture. Alors pourquoi j'ai choisi ces citations ? Parce qu'il me semble que le métier du paysage est un métier qui est d'une part en tension entre ces différents paradigmes et également en forte mutation. J'ai dit hier que c'était quand même un métier relativement jeune, même si j'ai pas oublié Versailles. Mais je crois que derrière cette mutation professionnelle, il me semble opportun, et Jean-Louis finalement vient nous en faire d'une certaine manière la démonstration, que cette activité professionnelle, il convient de la caractériser, de l'analyser, et de voir comment on peut partir de cette situation professionnelle pour proposer un certain nombre d'outils pour la formation. Donc, dans mon propos, je ferai référence le plus souvent à des modèles théoriques issus de la didactique professionnelle, aux travaux de Pierre Pastré du CNAM ou d'Alain Savoyan qui était au CEREC. Le CEREC, c'est le Centre d'études, de recherche, des emplois et des qualifications. Donc, ce que je voulais dire pour commencer, c'est que dans toute activité de travail, il existe ce qu'on va appeler des savoirs implicites, c'est-à-dire des savoirs qui sont cachés dans l'activité, qui ne sont pas dits, qui ne sont pas donc explicités. Deuxième idée forte que je voudrais faire passer, c'est que les activités de travail, vous le savez très bien, ne se réduisent pas à la stricte application de règles et de procédures qui vont être fondées sur des savoirs académiques. Je reprendrai une citation de Neuvegle de 2004 qui dit dans un de ses ouvrages « Les experts en savent toujours plus que ce qu'ils peuvent dire ». Donc on est bien là dans le cœur du sujet, on est sur la question de la verbalisation de ce qu'on fait. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors l'objectif, quand on part d'apprentissage à partir de situations professionnelles, l'objectif c'est de se donner les moyens d'inverser un petit peu la démarche, d'inverser le chemin. Il s'agit, à mon sens, et c'est pour ça que je pense que vous êtes interpellé, de multiplier les expériences de terrain qui vont contribuer à ce qu'on va appeler l'implantation d'ingénierie, c'est-à-dire faire en sorte que, d'une part, les experts, les formateurs soient des experts et que les gens conformes aient un certain niveau d'expertise. Alors, on va essayer de voir comment on peut s'y prendre. Bon, je vais pas vous donner des recettes, je vais vous donner peut-être quelques pistes. Alors, l'idée, c'est que pour qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait au préalable une analyse du travail. Et c'est des choses qu'on a entendues déjà hier dans les ateliers. Moi, j'ai participé à l'atelier sur l'alternance. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a entendues s'exprimer. Ça fait référence à l'analyse des besoins. Quels sont les besoins en formation? Et ça va permettre, si on part du travail, de construire des actions de formation en référence à ces analyses. Donc, l'analyse du travail va être un outil qui va nous permettre de construire des projets de formation. Alors, pour ce faire, il faut peut-être prendre quelques précautions. La première précaution, c'est qu'il faut distinguer, quand on analyse le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous dites aux gens de faire, d'exercer, d'exécuter une tâche qu'ils vont peut-être exécuter cette tâche, mais ils le feront pas de la manière dont vous pensez qu'ils allaient le faire. Donc il y a une distinction très forte entre le prescrit et le réel. Quand on observe les opérateurs, qu'est-ce que on peut noter? Qu'ils font souvent autre chose, ils font différemment, ils font plus, quelquefois moins. Bref, ils ont différentes manières de s'adapter aux exigences d'une situation. Donc pour un formateur, c'est très important de saisir l'écart qu'il existe entre le travail prescrit et le travail réel. Pourquoi c'est important? Ben parce que ça va avoir un impact sur les modalités d'analyse des besoins de formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la dimension réelle, si tant est que ce mot est un sens, hein, qu'est-ce que ça veut dire le réel? Le réel, chacun nous le construisons hein, avec nos représentations. Mais la dimension, on va dire réelle, j'aurais dû mettre des guillemets, va échapper majoritairement au discours pour s'inscrire dans l'action. Ça signifie que la compétence, elle est incorporée dans l'action et que le travail du formateur, quand on veut faire de l'apprentissage à partir des situations professionnelles, c'est d'essayer d'aller voir, d'aller, je dirais, débusquer les compétences dans l'action. Ce qui n'est pas forcément une chose facile. Alors, il s'agit donc d'interpeller un professionnel confirmé pour essayer de voir comment il traite sa propre expertise et comment il en parle. Quand on interroge les experts, ça nous est arrivé tous, ça a dû vous arriver, quand vous leur demandez de parler de leur travail, ben, ils se partagent entre l'évidence, je fais ça parce que c'est évident, ils se partagent, ben, ils savent pas le dire, ils ont pas de mots, pourquoi tu fais comme ça? Ben, j'en sais rien, j'ai toujours fait comme ça. Donc on est bien là au cœur du sujet. L'hypothèse, c'est que si vous faites verbaliser les gens, si vous faites parler les gens sur ce qu'ils font, vous pouvez avoir des outils pour construire des processus et des dispositifs de formation. La question, c'est que c'est pas facile de faire parler les gens. Alors, si vous voulez, vous aurez bien compris qu'on ne peut plus rester à un niveau descriptif des tâches. Bien sûr, c'est important, je vais me prémunir de quelques critiques pour la suite, c'est important de traduire les choses en capacité, en référentiel, loin de moi l'idée de penser qu'un référentiel n'est pas utile. Mais si on parle de processus de formation, il ne faut pas en rester, à mon sens, à un niveau descriptif des tâches. Donc, une autre étape est nécessaire, c'est une étape d'observation de travail, en se focalisant sur la manière dont les gens raisonnent pour obtenir, pour aboutir à une performance. C'est-à-dire en partant de ce que les gens disent de ce qu'ils font, de leur point de vue, comment font-ils pour réaliser une étape. Alors, je vais reprendre une formule de mon collègue Leplat qui dit « il faut faire parler le travail ». Je pense que la formule est assez parlante pour le coup. L'hypothèse est que si on observe le travail avec un certain nombre d'outillages méthodologiques, on va pouvoir dépasser la dimension déclarative hein, pour arriver à ce qu'on va appeler la dimension opératoire, c'est-à-dire comment les gens s'y prennent. Alors là, je fais référence, j'ai mis quelques noms d'auteurs. De toute façon, dans les actes, il y aura une bibliographie et je ne vais pas vous abreuver d'auteurs pour le moment. Donc, pour accéder à la dimension opératoire, il convient de distinguer deux éléments. D'une part, ce qu'on va appeler les savoirs de la tâche. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? C'est pas très compliqué. Les savoirs de la tâche, ce sont les savoirs théoriques qui fondent les tâches. Ils sont bien répertoriés, on les connaît tous. Il y a des disciplines académiques derrière, il y a des mathématiques, il y a des sciences, etc. Il y a des disciplines technologiques. Donc ça, si vous voulez, c'est les savoirs qui renvoient à la tâche. Deuxième catégorie de savoirs qu'il convient de distinguer, c'est les savoirs de l'activité. Les savoirs de l'activité, c'est les savoirs qui vont orienter la réalisation effective des activités. Ils sont liés, bien évidemment, vous l'aurez compris, au contexte, aux conditions dans lesquelles ces savoirs vont se mettre en œuvre dans un contexte professionnel. Le problème, c'est qu'ils sont peu, voire pas du tout, énoncés et parfois peu organisés. Donc le travail de l'observateur, ça va être de voir comment ces savoirs de l'activité prennent du sens, comment ils s'organisent. Alors, je vais passer rapidement sur ce slide qui est un petit peu chargé, j'en conviens. Donc, pour comparer un petit peu le savoir de la tâche, le savoir de l'activité, savoir de la tâche, c'est de l'ordre de la prescription, ce qui doit être fait. La description parle avant tout de la pratique qui est fondée sur une théorie, je l'ai dit tout à l'heure. Ces savoirs de la tâche sont essentiels pour analyser et comprendre les pratiques, mais ils ne sont pas suffisants. Donc on va avoir recours au savoir de l'activité, qui, eux, renvoie à une activité réellement réalisée, qui n'est pas réductible à sa partie exécution, hein, qui renvoie à la partie orientation de l'activité, et c'est là où on va repérer ce dont je parlais tout à l'heure, les savoirs impliqués dans la réalisation effective. Ça signifie que les gens ne sont pas forcément capables de dire quels sont les savoirs impliqués, mais c'est le travail de l'observateur. Et, dernier point, ces savoirs représentent, ils sont contextualisés. Ils prennent du sens dans tel contexte-là, mais peut-être pas dans tel autre. Donc on distingue bien, d'un côté, pour résumer, ce qui est de l'ordre des savoirs de la tâche qui renvoie des savoirs académiques et des savoirs théoriques, et des savoirs de l'activité, comment ces savoirs vont prendre sens dans un contexte particulier. Alors, encore un mot sur les savoirs d'activité, vous comprenez bien que c'est ceux-là qui vont nous intéresser, puisque l'idée de cette intervention, c'est d'apprendre à partir des situations professionnelles, donc de l'activité. Dans toute activité, et ça aussi, les experts le disent, il y a une part d'imprévisible et d'incertitude. Et c'est précisément pour l'expertise, la capacité de gérer cette incertitude et de gérer cet imprévisible qui fait des opérateurs, qui fait d'un opérateur un expert. Donc, les travaux de recherche qu'on conduit ont mis en évidence l'initiative des acteurs, la décision, ce que j'appellerais l'intelligence qui est mise en œuvre par un opérateur dans un contexte donné, à un moment donné, dans une situation donnée. Alors, ces savoirs de l'activité, face à cela, comment réagir ? Je dirais que le développement des savoirs d'activité, il s'opère toujours dans le cadre d'une situation précise. Alors bon, c'est ce que Pastré appelle les concepts pragmatiques. Les concepts pragmatiques, tout simplement, c'est des concepts qui vont organiser l'action de l'opérateur dans un contexte donné. Donc, ils sont construits dans l'usage, et ça, vous le savez très bien. On fait comme ça. Ils sont transmis dans des communautés professionnelles. Ils sont transmis des anciens aux novices. Ils sont traduits par monstration. Je vais te montrer comment je fais. Ils sont aussi traduits par verbalisation. Et là, c'est un petit peu compliqué, mais ça nous intéresse parce que nous, on peut écouter ce que les gens verbalisent. Deuxième élément, ces savoirs sont énonçables, mais ce qui les moins, c'est la façon dont ils sont utilisés dans l'action. La semaine dernière, j'étais à Begmeil et il y avait Bernard Ray qui disait « Si vous faites venir un plombier chez vous, il va vous dire « Je peux vous faire telle soudure, je peux aligner tel tuyau. » Enfin, moi, j'y connais rien en plomberie, mais il va vous décrire des gestes. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous répare la fuite. Donc, comment il va adapter toutes les compétences qu'il développe dans une situation donnée. D'accord ? Donc, effectivement, il faut voir comment, dans l'action, ces savoirs vont pouvoir prendre sens. Alors on est bien là dans le cadre de ce qu'on va appeler un milieu professionnel, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est partagé par une communauté de travail. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de l'activité, je dirais qu'on fait référence à la notion de geste professionnel. Un geste, il est toujours orienté, il est guidé par quoi ? Mais par des informations que je vais prélever dans une situation. L'expert, c'est celui qui saura mettre en pratique, utiliser tel geste suite à ce qu'il aura pu observer d'une situation donnée. Alors je reviens à un point qui me semble important, c'est que le problème, c'est que quand vous lui demandez, il ne saura pas vous expliquer. C'est difficilement verbalisable. Donc les chercheurs parlent de savoir d'expérience, c'est-à-dire c'est à partir de l'expérience qu'ils ont construit les savoirs. Et là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans la problématique de l'apprentissage à partir de situations professionnelles. Vous savez, c'est la fameuse expression qu'on a tous entendue, c'est l'écart entre le dire et le faire. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, ou c'est plus facile à faire qu'à dire. Ça, c'est des choses qui sont passées dans le sens commun. Alors, pour caractériser l'activité, toujours, je pense qu'il faut, finalement, il y a peu de place pour une référence et une utilisation du savoir qui sont préalables à l'exécution. On est bien dans une logique d'exécution des savoirs. Il n'y a pas de séparation claire entre, d'une part, les phases d'orientation, d'exécution, de contrôle qui vont se succéder dans l'action, Et les savoirs d'activité, ils sont utilisés dans l'action, le savoir, comme je l'ai dit, restant toujours implicite, caché, et ce n'est que à partir d'une analyse que l'individu pourra faire après son action que le savoir pourra être explicité. Donc l'idée, c'est de faire passer d'un savoir d'une caractéristique implicite à une caractéristique explicite. Alors, dernière partie de mon intervention, c'est la question de l'expertise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert ? Premier niveau peut-être d'approche, je dirais que quand on parle d'expertise, ça suppose une capacité pour un opérateur de traiter ce qu'on va appeler une classe de situation de plus en plus large. Il sait faire beaucoup de choses dans une situation la plus large possible. Donc c'est quelqu'un qui a élaboré une action suffisamment généralisée, suffisamment large, pour répondre à une classe de tâches spécifiques. Et la dernière caractéristique de l'expert, c'est celui qui reconnaît, et je pense que ça, c'est peut-être le point le plus important, c'est celui qui va reconnaître dans une situation spécifique les analogies avec d'autres situations qu'il avait pu vivre précédemment, et il va se dire, tiens, mais enfin, il ne va pas se le dire, c'est automatique, c'est cet élément-là qu'il faut développer. Donc, l'expert, il va se fonder sur des savoirs empiriques qui concernent ces situations. Et on se rend compte, quand on observe les experts de près, qu'il existe ce que notre camarade Pastré appelle les invariants, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on retrouve dans différentes situations et qu'il suffit de réactiver. Alors, si on prend l'expertise, il y a deux catégories. Quand on mesure l'expertise, il y a l'expert, il y a le novice. Alors, le novice, le débutant, qu'est-ce qu'il fait quand on l'observe travailler ? Il réalise une succession d'opérations, mais il le fait pas à pas, en se référant au savoir explicite, au savoir de la tâche, c'est-à-dire, bon, mais là, il va appliquer des savoirs théoriques, donc il va essayer de voir quels sont les savoirs qui déterminent son action, contrôler systématiquement la réalisation. Il y a un petit peu de crainte dans la démarche. Donc là, on est dans le cas du débutant. Alors, l'expertise, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle injecte de l'automatisme. C'est-à-dire, l'expert, c'est celui qui a une activité qui va s'automatiser. Et progressivement, les chercheurs ont une formule qui me semble assez parlante. Ils disent, le savoir se retire de l'activité. Il est tellement implicite, il est tellement incorporé dans l'action, qu'il est tellement évident qu'il perd son caractère théorique pour prendre sens dans une organisation. Il est intégré dans l'action experte. Alors, il faudrait quand même essayer de répondre à la question, mais oui, mais pour la formation, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça pour la formation ? Est-ce qu'il existe des nouveaux modèles utiles pour la formation ? Combien il me reste ? J'ai pas pris le temps. Ouais. Alors, première idée par rapport à la formation, vous l'aurez compris, la compétence a une dimension incorporée, c'est-à-dire que l'opérateur va produire de la compétence quand il est en interaction avec la situation. Hein. Bon, on le sait très bien, le sens commun nous dit que quand on est confronté à un problème, eh bien, il faut, si possible, le résoudre. Et c'est en confrontation à ce problème qu'on va mettre en œuvre une stratégie pour essayer de le résoudre. Donc l'analyse du travail va permettre de produire une modélisation de l'activité pour en faire des objets de formation. C'est en essayant de comprendre l'activité, à travers ce que Pastré va appeler la structure conceptuelle de la situation, c'est quoi ? C'est l'ensemble des dimensions d'une situation qu'on doit prendre en compte pour que l'action soit réussie. En gros, voilà. Donc l'idée, c'est de voir comment les gens s'y prennent. Hein, c'est-à-dire, le modèle opératif, cette idée de modèle opératif, c'est comment ça se conduit, comment se mène telle opération. Il s'agit de prendre en compte la manière dont un sujet va investir une classe de situation. Dans telle configuration, comment je vais m'y prendre ? Le professionnel confirmé, alors si on compare le professionnel et le novice, et on pourra peut-être en tirer des leçons pour la formation, le professionnel confirmé, il a un modèle opératif qui est proche de la structure conceptuelle de la situation, c'est-à-dire que il va s'approprier rapidement la situation et en déduire les opérations à mener, alors que le novice, lui, ben, il va rester sur ce qu'on appelle des traits de surface, c'est-à-dire que la situation ne pourra pas être prise en compte dans par exemple, son caractère atypique. Mais tiens, ça m'était jamais arrivé. Comment je fais ? Comment je fais ? À quel savoir je fais appel ? Bien sûr, il ne va pas le poser comme ça, mais quand on l'observe, c'est comme ça que ça va se jouer. Donc, des nouveaux modèles utiles pour la formation. La question, et hier ça a été dit à plusieurs reprises, la difficulté c'est d'articuler des savoirs pratiques et des savoirs théoriques. Quand vous interrogez les professionnels, qu'est-ce qu'ils disent à leurs apprentis? Ils disent ça, tu l'as appris à l'école, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis les profs, qu'est-ce qu'ils disent à l'école? Ils disent oui, non mais ça c'est important, il faut que tu maîtrises tel savoir, etc. Il y a toujours, j'ai presque envie de dire, cette querelle entre d'un côté les tenants des savoirs théoriques, de l'autre côté ceux qui les mettent en œuvre. Donc la question, est-ce qu'il serait quand même possible d'articuler ce que nous on va appeler des savoirs pratiques et des savoirs théoriques? Alors, moi je dirais qu'une part de la réponse tient dans le fait que finalement ce ne sont pas les savoirs théoriques qui orientent la réalisation de l'activité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, mais ce n'est pas eux qui l'orientent. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont trop abstraits, et ça vous le savez, et ce n'est que dans la mesure où ils vont être contextualisés, c'est-à-dire prendre sens dans des problèmes à résoudre, qu'ils vont devenir des savoirs d'activité, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, savoir de la tâche, savoir d'activité, et qu'ils vont constituer la base d'orientation de l'exécution de cette activité. Donc je veux dire, raisonner en termes d'opposition savoir théorique, savoir pratique, ça n'a pas de sens. On n'est plus dans une logique de transmission, on n'est plus dans une logique d'aller-retour entre d'une part comment ces savoirs théoriques sont formalisés et quel sens ils vont prendre à l'action. Je pense que une situation est didactique quand il y a une relation entre activité et savoir. Il faut que cette relation entre activité et savoir soit établie. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait, hein? Alors, comment on fait? Je répète, je ne vais pas vous donner des recettes, mais il y a peut-être des orientations qui me semblent intéressantes. Moi, je pense que le formateur, il doit partir de ce que j'appellerais des règles d'action qui permettent de gérer une situation. Et pour ce faire, ça passe par l'observation. Comment les gens s'y prennent pour régler leurs actions face à des situations simples? Donc le formateur, il doit être capable d'orienter ce qu'on va appeler une analyse réflexive vers la prise en compte des situations qui sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire observer comment les gens font et qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'ils font, je vais y revenir tout à l'heure. Donc il s'agit de faciliter le passage entre, d'une part, la compréhension dans l'action, comprendre pourquoi les gens font, et la compréhension en pensée, c'est-à-dire à quel savoir ils font référence. Donc c'est cette articulation qui est difficile, je dis pas que c'est un point facile, mais c'est le prix à payer si on veut mettre en place des situations professionnelles qui soient opérationnelles. Alors, Nina me dit 3 minutes, il va falloir que je saute quelques slides. Alors, je dirais que, finalement, il s'agit de penser par strates, peut-être avec des degrés de complexité des situations. J'insiste bien, complexité des situations. Pas du savoir. Ça veut dire qu'il faut les trouver, ces situations. Ça veut dire qu'il faut penser le travail comme un lieu où vont émerger des situations problématiques. Et c'est dans ces situations problématiques dans lesquelles le sujet va puiser ses ressources. Plus il y a des problèmes, plus on va faire appel à des ressources. Et notamment les savoirs appris en formation, les savoirs théoriques. Et dernier point. Je pense qu'il faut se décentrer de la posture classique pour passer plutôt sur une approche d'accompagnement au développement des compétences. Alors, une compétence, c'est, moi je dirais, premier niveau de définition, le rapport d'un sujet avec une situation de travail. Une compétence va permettre d'engendrer une activité qui répond aux exigences d'une tâche à un certain moment. Voilà la compétence. Bon, je veux dire, des définitions de la compétence, on en trouve à revendre, si vous permettez l'expression. Donc il s'agit de mettre en œuvre une véritable pédagogie des situations où on va apprendre par l'action et où on va apprendre par l'analyse de sa propre action. Et la fonction du formateur, ce sera d'accompagner dans l'analyse de cette situation. Alors, pour clore le propos, finalement, je suis dans les temps. Il s'agit d'une mutation d'une activité professionnelle. J'ai commencé par là, hein, avec le petit clin d'œil tout à l'heure, de désagricoliser, c'est difficile à dire. Je pense que si on veut comprendre ces mutations, on doit se doter d'outils d'analyse et d'observation de ces nouvelles activités professionnelles, parce que je persiste à croire que ces activités professionnelles sont nouvelles, variables, complexes. Il y a plein de métiers dessous. Hier, on a parlé de maçonnerie, etc. Moi, je disais, sauf que oui, maçonnerie, mais c'est pas métier de maçon, votre métier. Donc, il y a une complexité, Et c'est, à mon avis, la condition si l'on veut apprendre des situations professionnelles pour former à ces nouvelles activités. Voilà, je crois que j'ai tenu. Je vous remercie.